Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Marielle, Marielle avec moi dans mon salon. Dans tes mains, une tasse de thé vert. On va partir au Japon en dégustant un sencha. Et on va te rencontrer. Donc l'émission s'appelle Regarde ailleurs. L'idée, c'est vraiment d'élargir sa vision sur soi, sa vision sur le monde à travers différentes expériences de vie, à travers différents parcours de vie. Dans cette émission, j'invite régulièrement des écrivains, des voyageurs, des photographes, des réalisateurs. Regarde ailleurs, c'est aussi ça. C'est vraiment tourner son regard vers l'extérieur de soi. Parce que aujourd'hui, je crois que c'est important d'enlever les œillères pour vraiment s'ouvrir et de se remettre aussi en mouvement, parce que j'aime bien dire que c'est souvent le mouvement qui nous rend vivants. Et depuis quelques jours, quelques semaines, j'essaie de te rencontrer et je sens qu'il y a du mouvement en toi parce que tu n'es jamais là, tu m'as l'air d'être assez insaisissable. Donc prenons le temps de te rencontrer. Alors peut-être on va commencer par ça, par ton itinéraire de voyageuse, avant de voir ce que tu as développé dans ta vie professionnelle. Parce que si j'ai bien compris, l'idée c'est de mettre du sens et de la cohérence entre ce qu'on est et ce qu'on fait. Bonjour Marielle.
Bonjour Alexandre. Exactement, mettre de la cohérence. La cohérence, c'est vraiment le maître mot pour moi. C'est ce qui me guide, je pense. C'est suivre, être cohérente et ajouter toujours des petites choses à ma vie. Alors, en parlant de voyage, je suis tombée dedans. J'ai pas envie de dire quand j'étais petite, parce que j'ai un peu voyagé, mais pas tant que ça. Mais j'ai commencé avec un voyage en sac à dos quand j'étais en école de commerce. J'ai fait Bali, voilà, un petit voyage assez simple. Puis l'année d'après, je me suis dit, bah tiens, on n'a qu'à aller en Indonésie, sur l'île de Java, sur une autre île, un peu moins touristique. Et ça m'a vraiment donné envie d'aller encore un peu plus loin. Donc j'ai... Alors pour donner un peu plus de... d'infos sur moi, j'ai fait une école de commerce et j'ai commencé dans la finance. Je bossais à Luxembourg et au bout de 2 ans, pour pas dire au bout de 6 mois, je me suis dit mais c'est vraiment pas fait pour moi. Et ça m'a pris un petit peu de temps parce que je me suis dit sois patiente, essaye de t'intégrer un peu, de connaître vraiment le monde de la finance. Donc je l'ai fait, mais bon, comme dit, après 8 mois, j'ai quand même commencé à préparer mon projet futur qui était de voyager en sac à dos. Donc je suis partie avec mon ami qui est mon mari actuellement. On a tout vendu, on a juste gardé une boîte à chaussures et on est parti sans billet retour. On a fait l'Asie, on a commencé par la Corée, le Japon, Thaïlande, Vietnam, Laos, et puis on a fini en Australie pour une année avec un visa de working holiday visa, et on a fait plein de petits boulots dont le métier de barista que j'ai appris en Australie. Mais en tout cas, cette année c'était quasi un an en sac à dos. J'avais vraiment envie de faire ça pour être plus proche des gens, pour avoir le temps d'avoir vraiment cette immersion culturelle, parce que c'est quelque chose que j'avais découvert dans mes premiers voyages à Bali, à Java, mais c'était jamais assez long et j'avais envie de prendre le temps de changer de vie, de me connecter à moi, de sentir, de goûter, d'apprendre, de voir que les gens vivent pas comme nous, qu'il n'y a pas de règles en fait dans la vie. Il suffit d'être heureux, de suivre ce qu'on a envie de faire, de s'écouter et pas de se mettre dans une case et travailler dans la finance, pour moi, ce qui n'était pas du tout fait pour moi en fait. Mais j'ai aucun regret par rapport à ça, ça m'a apporté beaucoup de choses. Mais en tout cas, voilà, le voyage, ça a commencé comme ça. Après l'Australie, une année, retour pour des raisons familiales un peu compliquées en France, et puis après départ pour Berlin et 4 années à Berlin. Un peu de travail dans le e-commerce, jusqu'à ce que j'arrive à un burn-out, un truc assez sympa et à la mode en ce moment. Et c'est vraiment ce burn-out qui m'a apporté tant de choses. En fait, j'ai beaucoup de gratitude pour ce burn-out, parce que j'ai fait mon burn-out et le lendemain, j'ai réservé mes billets pour l'Inde et je suis partie pour un stage de yoga avec une femme que j'avais trouvée juste extraordinaire, comme ça, vite fait. J'ai trouvé rapidement ça sur Internet. Je me suis inscrite et je suis partie. Et j'ai passé un mois en Inde toute seule. Donc tous mes voyages, à partir de ce moment-là, les voyages longs, étaient seuls. Donc je suis partie vraiment à la découverte, j'étais vraiment en immersion en Inde, dans des conditions qui étaient très précaires, parce que j'avais envie de vraiment vivre l'Inde. Donc j'ai fait ça pendant un mois, j'ai appris beaucoup de choses sur moi, le retour à la réalité était très dur, le retour à la vie citadine était terrifiant. Et ça n'a pas duré longtemps parce que je suis retournée à Berlin. Puis je me suis dit, mais attends, le yoga, c'est trop bien, mais je ne vais pas m'arrêter là. Et j'ai découvert le yoga Thai Massage. Du coup, je suis repartie pas beaucoup plus tard. Je suis partie en Thaïlande pour me former au yoga Thai Massage. Et j'ai passé 2 mois là-bas. Puis je suis repartie en Inde pour l'Ayurveda. Et donc, j'ai passé 5 mois en Inde. Dans une clinique ayurvédique pour vraiment apprendre ce qu'était l'Ayurveda, quelle était cette médecine, comment ils faisaient concrètement, comment on soignait les gens. Et à nouveau, c'était dans un endroit complètement reclus en Inde. J'étais dans cette clinique, je suis arrivée, c'est dans des moussons, j'ai pas pu sortir pendant une semaine. C'était aussi assez perturbant et déroutant comme changement, mais c'était des moments de vie incroyables parce que je me suis connectée à moi, j'ai ressenti des choses, je vivais. Ce que j'avais pas l'impression de faire quand j'étais effectivement à Luxembourg. J'avais l'impression de ne pas vivre. Et là, je vivais à 100% du matin au soir.
Décortiquer un petit peu tout ça, mais peut-être une question un peu globale que j'aime bien poser. Pour toi, le voyage, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ?
Le voyage, c'est la vie. C'est la vie, c'est vraiment ressentir son corps, c'est avoir des émotions, c'est être connecté à ses sens. Pour moi, c'est vivre. Ne pas voyager, c'est... D'ailleurs, on ne va pas en parler, mais avoir des problèmes pour voyager, pour moi, c'est compliqué, effectivement, parce que le voyage, c'est tout simplement la vie. C'est la vie. C'est la connexion à ses sens, c'est le partage, c'est la relation, la connexion à soi, mais aussi aux autres. C'est les échanges, c'est la découverte, c'est tout simplement le bonheur, c'est la surprise. C'est la surprise, ouais.
Donc toi, c'est pas forcément tes parents ou ta vie familiale, ton contexte familial qui t'a mené vers le voyage. C'est vraiment quelque chose que tu as révélé par toi-même.
Exactement. Alors j'ai un peu voyagé avec mes parents, mais c'était des voyages plutôt organisés. Mes parents, en fait, ont découvert le voyage avec... le vrai voyage, j'ai envie de dire, avec moi, quand ils m'ont retrouvée dans certains pays et qu'ils ont appris à voyager d'une autre manière, à être plus proche des peuples, à sortir des hôtels, à faire des choses un peu hors des sentiers battus.
Tu parlais d'études dans la finance. Comment ça se fait ? Comment tu t'es retrouvé là-dedans ? Et à quel moment est-ce que tu as réussi à être à l'écoute de ta propre lumière ou de ta propre vibration ?
Alors comment j'ai réussi à être là-dedans, c'est une grande question, mais je pense que tu as déjà entendu ça. Des fois, on a l'impression de ne pas vivre sa vie. Et en fait, je pense que ce n'était pas ma vie, la finance. Donc je suis tombée dedans, pourquoi ? Parce que j'ai eu l'opportunité de faire des études. Mes parents n'ont pas pu en faire. Et donc, ils m'ont offert cette chance. Et j'avais toujours besoin de faire quelque chose de très compliqué. Donc j'ai fait un DUT, mais après ça, je me suis dit, mais non, c'est vrai, on va pas s'arrêter là, on va faire une école de commerce, et on m'a poussée, donc j'ai eu la meilleure école de commerce, donc j'ai fait ça, mais je me suis dit, je vais pas juste faire un master en management, je vais faire un double diplôme, donc j'ai fait un double diplôme, un master en contrôle comptabilité audit en même temps que mon master en management. Et après, je suis rentrée dans l'audit. Pour faire de l'audit, c'était vraiment le métier le plus dur, et on se disait, mais oui, si tu fais ça, après tu réussis, après tu vas gagner de l'argent, tu vas avoir du pouvoir, tu vas être manager. Et donc c'était vraiment pas moi, et je me suis rendu compte de ça, comme je te disais, au Luxembourg, où je me suis dit, mais attends, là j'ai pas l'impression de vivre, ok, j'ai un super salaire, j'ai pu m'acheter ma moto, mais en fait je m'ennuie, j'ai aucun impact, je joue avec des millions, avec des investisseurs pour moi qui sont pas très intéressants, et j'ai pas d'impact dans cette vie, si j'existais ou pas, ce serait la même chose, voilà.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Il y a cette notion de suradaptation, d'adaptation à un système, adaptation à des besoins qui sont souvent pas les nôtres, qui peuvent être des projections de notre famille, de nos profs, de nos référents. Et je crois que c'est important de remettre cette notion du sens. Hein. On en parle de plus en plus, la quête de sens. Prendre le temps de s'interroger sur quelle est sa lumière, quelle est sa couleur, quelle est sa teinte intérieure, et est-ce qu'on est vraiment à notre place aujourd'hui dans l'énergie, dans ce qu'on fait dans nos quotidiens. Et c'est vrai que j'observe autour de moi de plus en plus de gens qui, tu parlais de burn-out, hein, un terme très à la mode, où à un moment donné, on s'interroge sur cette notion du sens, et c'est là qu'on arrive finalement à vivre une vie plus en phase et plus alignée avec nos valeurs, et du coup, on n'a plus tellement l'impression de travailler.
Exactement. Oui, on a l'impression juste de vivre, et on travaille avec joie. On fait beaucoup de choses, et c'est vrai qu'il n'y a pas cette contrainte. C'est vrai que les dans notre société, en fait, le standard, c'est vraiment de, il faut travailler dur. En fait, il faut que le travail soit vraiment, il y a ce côté labeur, il faut mériter son salaire. Et en fait, non. Je me souviendrai toujours en Australie, une personne qui m'a dit, mais il y a une place pour chacun, il faut juste la trouver. Et c'est vrai. C'est dommage de voir tous ces gens qui travaillent et qui ne sont pas heureux. Il n'y a pas de règle, en fait. Il n'y a pas de surboulot ou de surmétier ou de sous-métier. Il suffit de faire quelque chose qui nous anime. Il faut être content de se lever le matin et pas attendre le week-end pour être heureux. Et c'est ce que j'essaie, effectivement, quand tu parlais de sens. C'est une chose à laquelle j'essaie de sensibiliser aujourd'hui les étudiants, puisque je te disais que j'enseignais en école de commerce. Alors, ce n'est pas évident, parce que mon cours est totalement différent des cours théoriques de base. Mais même si j'arrive à en inspirer quelques-uns déjà, c'est ça, de leur montrer avant qu'ils arrivent sur le marché du travail, faites quelque chose qui a du sens pour vous, qui vous plaise, et ne vous mettez pas dans des cases parce que vous allez être malheureux. Et c'est fou, mais déjà aujourd'hui, certains étudiants sont malheureux, ils ne sont pas encore sur le marché du travail, ils sont déjà tristes du boulot qu'ils vont faire. Ils sont déjà stressés, ils ont déjà peur de ne pas réussir, ils ont déjà envie d'être les meilleurs alors qu'ils n'ont même pas commencé. Et c'est assez incroyable.
Et de vivre dans cette réalité, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Tu disais en Australie, on t'a dit, on a chacun une place, il suffit de la trouver. Alors la question que je te pose, Marielle, comment on fait pour trouver sa place dans ce monde ?
On essaye, on ose, on expérimente, on voyage. Comme tu le disais, on va aller à la découverte d'autres personnes, d'autres peuples, d'autres traditions. Souvent, ça nous apporte une petite lumière, on teste quelque chose et on se dit, mais là je me sens vachement mieux. Et donc, il ne faut vraiment pas hésiter, j'ai envie de dire, à expérimenter des choses dans sa vie. Il ne faut pas rester bloqué chez soi, il ne faut pas rester enfermé dans son métier. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut changer tout le temps, qu'il faut... Non, mais on le sent, en fait. On sent souvent, si on se lève le matin, qu'on ne se sent pas motivé, si on se lève toujours fatigué, si on est toujours malade avant d'aller au travail, tous ces petits signes, des petits signaux comme ça qui peuvent être physiques, mentaux... Ça veut dire qu'on n'est pas forcément à sa place. Il ne faut pas avoir peur d'essayer d'autres choses. En fait, il n'y a pas d'erreur dans la vie. On ne fait pas de... il n'y a pas de risque, quoi. Au pire, on peut toujours changer. On a du mal, j'ai l'impression, à intégrer ça. Mais changer, ce n'est pas grave. On n'est pas obligé de changer, mais changer, ce n'est pas grave. Il y a toujours une issue. Alors, sans doute, effectivement, ça demande certaines concessions. On va avoir une réduction de salaire, on va devoir limiter certaines dépenses, des petites choses comme ça. Mais ça, le jeu en vaut vraiment la chandelle.
J'aime bien reprendre une phrase de Satish Kumar qui disait qu'il faut arrêter de chercher du travail, mais qu'il faut vraiment créer sa réalité. Et je crois que c'est hyper important aujourd'hui. En plus, on le voit bien dans un système qui est en train de changer. On parle de nouveaux paradigmes. Donc plus que jamais, ne pas vouloir chercher un travail, mais vraiment essayer de créer sa propre réalité et de vivre pleinement. Marielle, alors dans le petit échange qu'on a eu ensemble, j'ai compris plusieurs choses. Tu as parlé de d'Ayurveda, tu as parlé de massage, thaï, tu as parlé de café, tu as parlé d'école de commerce. Donc j'ai l'impression que tu es multicarte, multi-activité. Pourquoi et comment est-ce que tu organises tout ça et quel est le lien entre tout ce que tu fais?
Alors j'ai envie de reprendre une petite phrase que j'ai eue dans un livre là il n'y a pas longtemps. J'ai rencontré une femme qui était extraordinaire et qui s'appelle Marie-Pierre Dillenzegger, qui a écrit un livre. Et elle me l'a offert, je l'ai rencontrée sur le marché et elle a dit, elle a mis, alors que je ne la connaissais pas tant que ça, mais elle m'a donné ce livre et elle m'a dit « Marielle, celle qui ose bouger les lignes ». Et j'ai trouvé ça assez sympa. En fait, j'ai envie de te dire, le lien entre tout ça, c'est juste de suivre mon instinct d'une part. C'est aussi d'inspirer, comme je te le disais, parce que je pense qu'il faut, des fois, faut pousser, faut aider les gens à bouger, à faire quelque chose, et faut leur offrir des choses sympas. Alors, effectivement, je travaille avec l'Ayurveda, parce que c'est mon lien avec l'Inde, je me sens vraiment liée à l'Inde, c'est une partie de moi, c'est ma deuxième maison. Et donc, travailler avec l'Ayurveda et initier mes clients à cette médecine, leur montrer comment le corps fonctionne, comment on verrait, comment leur corps serait décrypté, si j'ai envie de dire, en Inde, c'est toujours intéressant et souvent c'est très simple en fait. On revient à des notions de simplicité. Donc là, il y a l'Ayurveda, le Thai massage, c'est prendre soin aussi des autres. Donc il y a tout ce lien du soin, d'accompagnement par le corps, par la tête, par des cours, par des stages, comme je te le disais. Et la notion de plaisir. Il faut se faire plaisir. Alors, je me fais plaisir dans tout ce que je fais. Je suis passionnée par tout ce que je fais. Je suis passionnée par l'Ayurveda, par le toucher avec le yoga Thai massage, par l'accompagnement. Je trouve que c'est génial d'offrir un peu de soutien à toutes les personnes que je croise, d'offrir un sourire, de partager des choses que je peux aussi partager, effectivement, comme je te disais, en école de commerce. Et avec le café aussi, c'est un plaisir. Et il y a aussi un côté social et sociable. Moi, je suis un animal. J'adore échanger avec les gens, j'adore parler, j'adore découvrir, j'adore partager. Et j'aime bien apprendre et j'aime vraiment bien donner aussi. Donc, il y a tout ce côté de donner. Et là, avec le projet de café, c'est de soutenir les femmes, c'est d'avoir un petit endroit, un vélo... triporteur au marché, donc il n'y a pas plus populaire que le marché en fait pour rencontrer tout type de clients. Il n'y a pas ce côté fermé d'un café. Avoir un endroit ouvert sur un marché, c'est magnifique. Enfin, t'accueilles un petit papy qui a 90 ans, puis à côté, t'accueilles un ado qui a 16 ans. On voit tout et je trouve ça génial. Donc il y a ce lien, il y a le soin, il y a le plaisir.
Et sur les marchés, c'est vrai que ça fait penser aussi peut-être à une inspiration liée au voyage, hein, tout ce qui est street food en Asie, beaucoup de gens sont là avec effectivement leur petit vélo, leur petit tuk-tuk à essayer de à vendre différentes choses et être directement en lien avec tous.
Ouais, on enlève ces barrières de murs, on est présent, on est mobile. Alors malheureusement, on peut pas être aussi mobile qu'on aimerait ici, parce que c'est pas dans la culture locale. Mais effectivement, oui, le lien avec l'Inde, moi je trouve ça magnifique, avec l'Inde et pas que l'Inde, mais l'Asie. Et pas que l'Asie d'ailleurs, hein, même un passé chez nous, il y a beaucoup de papis qui viennent et qui disent « Ah, à l'époque, il y avait le glacier, il passait comme ça », donc ça leur rappelle des souvenirs. Donc nous aussi, on avait ça avant, mais on l'a plus. Et moi, je trouve ça génial, comme tu dis, c'est ouvert, c'est être dans le lien. Il y a pas ce mur, il y a pas de distance en fait. Il y a pas de distance et ouais, ça rappelle effectivement la simplicité asiatique. T'as envie de manger quelque chose, il y a toujours un petit tuk-tuk, un petit stand qui paye pas de mine, une petite mamie qui est assise dans un coin et je trouve ça génial. Je trouve ça juste génial.
Mais ça prend beaucoup d'énergie que d'avoir un vélo café, que de donner des cours de yoga, que d'être naturopathe, que de donner des cours à l'école de commerce. Voilà, comment tu fais pour trouver le temps et qu'est-ce que tu fais quand tu as du temps libre?
Alors oui, ça demande beaucoup d'énergie, mais je vais pas te cacher que je fais aussi beaucoup de choses pour moi. Mon équilibre est très important, donc je prends aussi des temps pour moi, je sais dire stop. C'était pas forcément évident au début, si tu veux, parce que tu t'installes quelque part et t'as envie, t'as besoin de vivre, hein, je vais pas te cacher, je fais pas du bénévolat, donc j'ai besoin aussi de m'en sortir, donc de travailler. Mais à côté de ça, toujours s'écouter. Alors une chose, c'est déjà, c'est pas non plus une surprise, mais je fais ma pratique de yoga tous les matins, donc je me lève très tôt, et j'ai ma pratique de yoga, et même avant d'aller au marché, je me lève une heure plus tôt pour faire mon yoga. pour pratiquer mes respirations, pour faire ma méditation. Et déjà, ça me donne une énergie de dingue. J'ai vraiment beaucoup d'énergie. J'étais voir mon acupuncteur hier et il me dit « Mais vous avez vraiment une énergie incroyable !» Et c'est vrai, j'ai l'énergie. Mais parce que tout ce que je le fais avec le cœur et du coup, ça ne m'épuise pas. J'apprends aussi effectivement à faire des pauses, j'ai mes petites techniques et bien sûr j'ai une hygiène de vie qui est saine.
Je reviens à la dimension voyage, donc tu disais que tu as commencé à partir en mode backpackers, donc avec un sac à dos à deux, ensuite tu as expérimenté le voyage plutôt sur des séjours immersifs seuls, un peu plus longs, sur des thématiques yoga, des thématiques ayurveda. Est-ce que tu peux me parler de la différence entre voyager en couple et voyager seul ?
Alors c'est complètement différent. Et je me suis vraiment, enfin, pour moi, c'est très important de garder cette part de voyage seule également. Et là, bah, j'ai qu'une hâte, c'est de repartir avec mon sac à dos. C'est différent parce que tu es plus ouvert. Hein. C'est vrai que quand t'es à deux, c'est vrai que on était aussi en sac à dos pendant très longtemps, donc beaucoup de galères. On n'a pas fait le backpacker haut de gamme, donc on avait un budget à respecter. Mais c'est vrai que tu te renfermes un peu et t'es quand même souvent à deux et tu t'ouvres moins aux gens. Même si tu loges dans des endroits où tu peux toujours bien sûr échanger parce qu'il y a d'autres personnes qui voyagent comme toi. Mais c'est vrai que t'es plus fermé. Et j'ai fait des rencontres quand j'étais toute seule, des personnes dans le monde entier qui sont devenues de vrais amis, qui sont venues de l'autre bout du monde pour mon anniversaire, des choses incroyables, des personnes vraiment que je considère presque comme des personnes qui font partie de ma famille maintenant, mais que j'ai rencontrées quand j'étais seule. C'est vrai parce que tu prends le temps et tu peux aussi beaucoup plus suivre ton instinct, ton intuition. Et ça, c'est important pour moi. Quand je voyage, je sais jamais quand je pars ni quand je reviens. Je sors le matin et puis je me laisse guider. Je sais pas où je vais manger, je sais pas qui je vais rencontrer. Et j'aime cette liberté, en fait. C'est pas du tout la même liberté quand t'es deux, parce que t'as tendance à faire un petit planning, un petit programme de la journée. Même si c'est soft et t'es toujours flexible, mais les besoins de chacun doivent être respectés. Et du coup, ben, par moment, ben, les tiens, ils sont mis en dessous et puis tu suis l'autre. Aussi le côté localisation, tu vois, ou se repérer. Quand t'es à deux, des fois, tu suis l'autre, tu sais pas trop où t'es. Et quand t'es seul, moi, je trouve ça magique parce que je sais pas trop non plus où je suis, mais je choisis vraiment, je choisis où j'ai envie d'aller, par quel chemin. Par quelques chemins, je reviens. Si j'ai envie de rentrer, je rentre. Si j'ai pas envie, je rentre pas. Personne ne m'attend. C'est vraiment cette liberté à 200%.
Il y a aussi, dans le voyage, souvent, une magie. Une notion de magie. Tu as utilisé le mot magique. Mais il y a aussi la magie des rencontres, les synchronicités. Cette notion, des fois, de l'impression d'être guidé par quelque chose de plus grand que toi. Est-ce que tu as expérimenté ça aussi, en te mettant sur les routes du monde ?
Ouais, c'est vrai. Bah, il y a des endroits où tu te sens juste bien. Et on parlait de place avant. Et tu dis, mais attends, mais... ça, c'est vraiment ma place. Ou des connexions qui se font. J'ai expérimenté ça vraiment, comme je te le disais, particulièrement en Inde. Par exemple, ma professeure de yoga que je suis allée revoir dès que j'allais en Inde. Ben, je passais quelques jours la voir. Et c'est marrant parce qu'on sent qu'il y a cette connexion. C'est quelque chose de plus grand, mais on ne le dit pas. On le ressent juste.
Bon, l'Inde, c'est sûr que ça reste un voyage initiatique pour beaucoup. Se retrouver projeté dans cette réalité tellement différente, à la frontière du réel quelquefois, c'est quelque chose de très marquant. Là.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Autre chose qu'apporte le voyage, c'est cette notion de sortir de sa zone de confort. Ça permet de montrer à quel point on peut s'adapter à toute forme de situation. Souvent, on a peur de l'inconnu, alors que se libérer justement du connu va permettre aussi à l'individu ou au voyageur de se révéler.
Mais exactement, peu de gens savent qui ils sont. On nous a mis dans une case, on a fait des études, puis après on a pris un boulot. Et quand t'as un boulot, bah, il faut rester dans ce boulot, il faut surtout pas changer. Et bah, t'as pas beaucoup de vacances, bah, c'est pas grave, c'est normal, il faut travailler. Et puis si t'es en couple, ah bah non, tu pars en couple, t'es obligé d'être en couple, donc c'est comme ça, il y a des standards. Et si t'as des enfants, bah, tu t'occupes de tes enfants, t'es pas égoïste et tu pars pas toute seule. Il y a plein de choses comme ça et on te met dans des cases et c'est super angoissant en fait. Parce que des fois, tu sens que c'est pas ta place, t'as envie de faire des choses, mais que va dire la société ? Mais c'est très dur, je t'avoue que je suis passée par des phases où les gens m'ont pas compris. Il y en a qui m'ont compris, qui ont pris un peu de temps, ce que je peux comprendre parce que c'est un peu mon parcours peut être déroutant, mais ceux qui n'ont pas eu envie de me comprendre, bah, c'est pas grave. J'ai rencontré d'autres personnes, mais il n'y a pas de jugement à avoir. Et effectivement, il faut aller vers l'inconnu, il faut sortir de sa zone de confort pour vraiment savoir quitter. Parce que c'est dans ces moments-là que tu te découvres aussi des forces incroyables. Souvent, on me dit « Non, mais attends, toi, t'es maniaque alors que t'étais en Inde. » Et je dis aux gens « Mais c'est pas pareil. » Là, effectivement, bah tiens, on parlait d'enlever ses chaussures. Chez moi, on enlève ses chaussures. Des petites choses comme ça, et les gens me disent « Ah, mais c'est bon, c'est pas grave. Enfin, je peux garder mes chaussures, elles sont pas sales. » Non, non. Oui, alors toi, là, t'es maniaque, mais après, tu vis en Inde dans des conditions hyper précaires où c'est sale, où tu vis avec des cafards. Bah, c'est pas pareil. Je m'adapte, tu sors de ta zone de confort, tu te rends compte que oui, quand t'es en Inde, t'as pas les mêmes standards qu'ici. Par contre, ici, t'as le droit d'avoir une autre vie, t'as le droit de choisir. Ouais.
Marielle, tu as quel âge ?
J'ai 34 ans.
Marielle, tu feras quoi quand t'auras 40 ans ?
Voyager, pourquoi pas ? Ouais, peut-être être complètement nomade. Tu vois, c'est ce qui est en train de me passer par la tête en ce moment. J'en ai un peu marre d'être trop liée. Surtout avec cette période un peu incroyable où tu te sens très limitée. Bah, j'ai envie à nouveau de partir sans retour. Et pourquoi pas à mes 40 ans ? Peut-être à mes 35, c'est bientôt.
Ça, le nomadisme, c'est quoi pour toi ? Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot-là ? Parce qu'aujourd'hui, on observe de plus en plus de gens qui sont sur la route, on parle de la van life de plus en plus, ceux qui choisissent d'être en mouvement permanent. Qu'est-ce que tu mets comme image derrière l'image du nomade ?
À la liberté. La liberté est vraiment être connecté à soi. Te dire, ok, j'ai envie de rester, je reste, j'ai pas envie, je reste pas. T'as pas toutes ces obligations et on se rend compte que vivre quelque part, il y a quand même des obligations. C'est normal, tu vis dans un pays, tu as un logement, du coup t'es obligé, administrativement parlant, il y a plein de choses à faire. Et c'est vrai que des fois ça me pèse parce que je t'ai pas dit, mais j'ai un gîte aussi. Donc du coup c'est vrai, quand t'as un studio, quand t'as un gîte, quand t'as des choses, ben, tu peux pas partir comme ça. Et c'est normal parce que tu t'es aussi engagé face à des gens, mais quand t'es nomade, tu t'engages moins en fait. Il y a moins d'engagement, il y a de la découverte, de la surprise. Et il y a du lien. Beaucoup peuvent se dire, mais attends, tu pars seule, t'as plus... Non, comme on disait, tu rencontres des gens, mais t'es libre. Et puis, tu peux aussi être très bien dans la nature.
Marielle, qu'est-ce que c'est être libre ?
C'est de ne pas avoir d'obligation. C'est pas avoir d'obligation, c'est vraiment te lever le matin et dire, ok, j'ai envie de faire ça, je vais faire ça. J'ai pas envie, je le fais pas. C'est vraiment suivre ses envies, être encore... On parle d'être connecté à soi, mais c'est vrai, quoi. Être libre, c'est oser et oser s'écouter. J'ai pas envie de dire juste s'écouter, c'est vraiment oser s'écouter.
Dans nos vies ou dans nos parcours ou dans nos légendes personnelles ou dans nos itinéraires de vie, on a souvent des personnes marquantes qu'on va croiser ou des films marquants ou des fois des bouquins qui vont nous inspirer et nous emmener dans une direction ou dans une autre. Est-ce que toi tu as ça, peut-être un bouquin ou quelque chose que tu aurais envie de partager, qui t'a fait du bien, qui t'a permis de te mettre plus en accord ou de t'aligner avec qui t'a permis d'être plus en accord avec toi-même ou de trouver une forme d'alignement, peut-être un bouquin inspirant, un film ou une personne que t'as rencontré.
Alors Light on Yoga, c'est un petit livre que je trouve vraiment très intéressant parce que et qui m'a beaucoup accompagnée pour comprendre la philosophie yogique. Ça c'est vraiment, mais j'ai envie de te dire que je suis très nulle. Alors je lis beaucoup, je retiens très peu les auteurs, donc je lis, je m'inspire de plein de choses, mais je suis vraiment très nulle. Retenir des acteurs d'un film, c'est vraiment pas pour moi. Donc oui, je lis beaucoup, surtout quand je vais dans d'autres pays, j'essaye toujours de connecter certains bouquins d'auteurs justement de ce pays-là, et je trouve ça tout simplement génial. Mais j'aurais pas comme ça, il y a Light on Life que effectivement qui m'a pas mal accompagnée, mais je pourrais pas t'en donner beaucoup plus.
Merci Marielle.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Merci à tous pour votre écoute. L'émission que vous venez d'entendre s'appelle « Regarde d'ailleurs ». Ce podcast donne la parole à ceux que je rencontre sur les routes du monde dans le cadre de mon activité de photographe voyageur. Je pars de l'idée qu'une personne, le parcours de vie d'une personne peut en inspirer beaucoup d'autres et j'aime pouvoir récupérer tous ces témoignages souvent très inspirants. Belle journée à tous!